Passion Montagne, le mag sur France Bleu.
Et Christophe Chardon, Jean-Michel Asselin, avec vous ce week-end. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Dans un instant, on revient sur un feuilleton qui dure depuis des décennies, qui touche l'histoire de la grande montagne, la grande histoire de la montagne française. Vous nous expliquez tout cela dans quelques secondes. La montagne en famille, et si on partait avec nos enfants avec des gourdes filtrantes?
Oui, je trouve que c'est très important, même en France, où des fois on a besoin de prendre de l'eau dans une rivière, on ne sait pas ce qu'il y a, la gourde filtrante, c'est la solution.
Du snowboard également aux Deux Alpes, snowboard cross qui arrive. Alors attention, les Cadors seront présents du 30 novembre au 3 décembre, et on va en parler avec Fabrice Boutet, qui est le directeur de la SATA, en fin d'émission. Je le disais, vous allez nous replanter le décor en quelques secondes sur ce feuilleton qui dure depuis des décennies maintenant concernant l'une des plus belles prouesses de l'alpinisme français.
Oui, eh bien écoutez, nous sommes en 1950 et l'Annapurna vient d'être gravie par des Français. Maurice Herzog et Louis Lachenal ont été les vainqueurs. Mais bien plus tard, quelques années après, dans les années 80, la légende de l'Annapurna et de son commandeur Maurice Herzog ont été salement écornées, et ce principalement à travers l'enquête d'un écrivain et alpiniste américain, David Roberts. Et la belle histoire s'est teintée de jalousie, de quelques mensonges et autres traîtrises. La contestation était telle qu'on allait jusqu'à mettre en doute que les deux alpinistes aient atteint le sommet. C'est dans ce contexte qu'en 2022, Christian Grayling, un historien, écrivain, passionné de montagne, depuis le Chili, a écrit Annapurna 1950, un exploit français sous le feu de la cancel culture. Il va nous dire, et c'est une exclusivité France Bleu, comment il a tenu à réhabiliter cette aventure. Mais pour lui répondre, un autre historien, Yves Balu, nous expliquera son point de vue à propos de cette étrange affaire.
Partons au Chili. Christian Grayling, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que cette cancel culture qui a mis en doute cet exploit français?
Bien, la cancel culture, on la connaît tous, c'est le fait de déboulonner des événements du passé. Il se trouve que ça s'applique assez bien à l'Annapurna, car, alors, comme vous l'avez dit, je suis historien de formation, je suis également passionné d'alpinisme. Bien sûr, je connais cette expédition, qui ne la connaît pas. Je connais aussi la polémique qui entourait cette expédition, et cette polémique m'avait toujours paru un petit peu curieuse, étant donné la virulence des accusations. Et il se trouve que j'ai commencé à chercher pour mon propre compte, à fouiller dans les archives, à faire ressortir des textes, à croiser des sources. Bref, le boulot d'un historien. Et je me suis rendu compte que cette polémique ne tenait pas debout, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très parlant. Je pourrais en prendre mille, mais juste cet exemple-là. En 2000, l'Américain David Roberts, pour ne pas le nommer, a pondu un livre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, j'ai relevé près de 130 âneries dans son ouvrage, donc ça fait un ratio bêtises par page assez impressionnant. Et dans son livre, il nous raconte une scène de chantage à l'aéroport, rien que ça, à propos du contrat d'expédition, donc le fameux contrat d'expédition sur lequel on a dit beaucoup de bêtises aussi, on a prétendu qu'il avait été mis en place pour bâillonner les autres membres de l'expédition et réserver à Herzog le monopole du récit. Bon, pas du tout, c'est un contrat, c'est une exigence de la maison d'édition Artaud qu'elle a imposée à la fédération, qui elle-même l'a répercutée sur les différents membres. Mais bref, fermons la parenthèse. Et donc Roberts nous dit qu'au moment de partir, au moment d'embarquer dans l'avion, Herzog présente ce contrat aux autres membres, à ses compagnons, qu'ils doivent signer sous peine de ne pas partir. Bref, un véritable chantage, quoi. Et il nous dit notamment que le pauvre Gaston Rébuffa ne veut pas, hésite, et puis finalement la mort dans l'âme se résout à signer pour pouvoir monter dans l'avion. Quand on lit ça, on se dit « quel salaud cet Herzog !» Et cette histoire est reprise d'article en article et d'émission en émission depuis des années. Seul petit problème, cette scène de chantage à l'aéroport n'a jamais existé. C'est une affabulation pure et simple, parce qu'on a retrouvé le contrat dans les archives. Contrat officiel, certifié conforme par notaire. Tous les alpinistes l'ont signé plusieurs jours et pour certains plusieurs semaines avant le départ.
Alors là, vous nous venez de citer un texte donc qui remet en cause un chantage. Est-ce qu'il y a un autre élément extrêmement parlant qui vous fait dire que des gens comme l'éditeur Guérin et d'autres ont délibérément construit cette polémique.
On a raconté que la Chenal avait été occultée au retour de l'Annapurna, c'est complètement faux. Il a été envoyé aux quatre coins du monde pour donner des conférences, grassement payées d'ailleurs, où il était reçu comme une rockstar. Tous les journaux parlaient de la Chenal, les manuels pédagogiques à destination des professeurs proposaient des séquences pédagogiques encore dans les années 60-70 avec la Chenal. Donc la Chenal n'a jamais été occulté, c'est grotesque de dire ça. On a prétendu qu'Herzog avait tiré la couverture à lui dans Annapurna premier 8000 pour se montrer dans toute sa gloire. En fait, c'est faux. Quand on étudie vraiment le texte et qu'on le croise avec d'autres, on voit qu'il se met parfois en retrait sur des épisodes où il pourrait véritablement se mettre en avant. On voit qu'il passe sous silence parfois les erreurs de ses compagnons pour ne pas les accabler. On a prétendu que Herzog avait ridiculisé la Chenal en le qualifiant d'hystérique et de dément dans la descente du sommet. Alors ça, c'est un élément totalement inédit que je montre. C'est que le chapitre d'Annapurna premier 8000 qui raconte la redescente dans des conditions dantesques, quand il se perd dans la tempête, il passe la nuit dans une crevasse, etc. C'est le chapitre le plus célèbre du livre. Mais il n'est pas d'Herzog.
Vous ne bougez pas et on revient dans un instant. On continue à en savoir un petit peu plus sur Annapurna 1950 avec Christian Grayling, alors qui prend fait et cause pour Maurice Herzog, et puis Yves Balu qui va prendre le contre-pied, bien sûr, dans un instant. C'est du côté de Passion Montagne ce week-end avec vous, Jean-Michel Asselin.
Passion Montagne, le mag. Secondes, je n'ai plus peur.
C'est Mylène Farmer et à tout jamais sur France Bleu dans Passion Montagne. Avec un exercice compliqué aujourd'hui, nous avons Christian Grayling en direct du Chili. Alors qui vient de sortir il y a quelques temps de cela, Annapurna 1950, un exploit français, ça c'est une certitude, sous le feu de la cancel culture.
À l'encontre de la romance de l'Annapurna et donc certaines des valeurs qui avaient été héroïques sont remises en cause. Ouais. Et Christian Grayling revient là-dessus en disant il y a eu beaucoup de faux, beaucoup de choses écrites qui sont fausses.
Alors Christian Grayling, qu'est-ce qui a été écrit qui est faux à vos yeux concernant cette ascension?
Quelques exemples concrets.
Hein. Quelques exemples très très concrets, s'il vous plaît Christian.
Énormément de choses en fait, à peu près tout ce qui a été dit ces 30 dernières années par rapport à la polémique est faux. La seule chose de valide, c'est que le récit de Lachenal a bien été caviardé par Lucien Devie, sauf que ça a été fait pour des raisons bien plus complexes qu'on l'a dit. Mais pour le reste, absolument tout est faux. On a prétendu que Lachenal avait été occulté, c'est faux. On a prétendu que Kerzog avait tiré la couverture à lui. En réalité, en croisant les textes, on voit bien que c'est faux. On a prétendu aussi que le succès de l'expédition avait été savamment orchestré par les autorités politiques et alpines de l'époque pour créer une espèce de communion nationale visant à faire oublier la guerre. En fait, c'est totalement faux. Quand on voit, il faut lire la presse de l'époque, les responsables politiques et alpins, dont Lucien Devie, étaient complètement dépassés par le succès. Ils étaient d'ailleurs férocement critiqués par les journalistes de l'époque pour leur indifférence et pour leur inertie. Donc vous voyez que là aussi on a raconté beaucoup de blagues. Dernièrement, l'un des polémistes a prétendu que cette expédition avait été coloniale ou raciste, alors que pour la première fois de l'histoire de l'himalayisme, les Sherpas ont été traités sur un pied d'égalité. Ils avaient le même matériel, la même sécurité, la même nourriture. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des textes dans les revues alpines britanniques des années 50 qui jalousent les Français, justement pour leur bon rapport avec les Sherpas.
Pourquoi avoir voulu absolument écrire ce livre-là? Pourquoi vous avez voulu réhabiliter cette Annapurna?
Je réhabilite l'Annapurna, la vérité historique, et non pas Herzog. Hein,
oui, on a bien compris.
Certains pourraient le penser. Herzog, quelque part, n'est pas mon sujet. Bon, s'il est réhabilité mécaniquement, tant mieux pour lui, mais c'était pas le but. Il fallait rétablir la vérité historique, tout simplement, de cette expédition sur laquelle on a raconté tout et surtout n'importe quoi depuis 30 ans. C'était un enfilage de contre-vérités, d'affabulations, de théories du complot toutes plus farfelues les unes que les autres, d'exagérations grossières, d'anachronismes. Il fallait tout simplement remettre l'histoire à l'endroit.
Et alors Christian, pourquoi, à votre avis, certains ont voulu ça, sont allés vers ça, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
On parle vraiment d'une poignée de polémistes, hein. Ils se comptent sur les doigts de la main, même pas. Mais ils ont le monopole de la parole publique depuis des dizaines d'années. C'est un mélange de rancœur personnelle, d'idéologie. C'est pour ça que on parle de cancel culture, parce que de fait, il y a une charge idéologique très très forte. Il fallait déboulonner l'Annapurna. Herzog et Devie, et déboulonner tout ce que cette expédition représentait.
Déboulonner une statue, comme certains le veulent en ce moment, dans certaines villes de France, par exemple.
Exactement, mais c'est exactement ça, c'est pour ça que je parlais de cancel culture.
Oui, ben écoutez, il vous reste à lire votre livre, hein. Je rappelle qu'il est aux éditions Heliopol. Christian Grayling, Annapurna 1950, un exploit français sous le feu de la cancel culture. On vous remercie d'avoir été notre invité depuis le Chili et un de ces jours, Christian.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Christian Grayling du côté donc du Chili. Alors là, on a eu le pile et puis on a le face qui va arriver dans un instant. Yves Balu, auteur, photographe, alpiniste, romancier, avec nous dans quelques petites secondes. Vous ne bougez pas.
Passion Montagne, le mag sur France Bleu.
J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie. Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mari
Je viens du sud, Sofia Muntasir. Passion montagne, avant d'accueillir Yves Balu, Jean-Michel Asselin, on arrive vers Noël et vous avez un bouquet entre les mains dont vous aimeriez nous parler.
Eh bien oui, un livre très positif qui s'appelle « Demain la montagne, 101 initiatives de transition ». C'est écrit par Sandy Place et Mathias Virili, que nous connaissons bien.
De Montagne
qui est
Magazine.
En chef de Montagne Magazine, exactement. Alors il s'agit tout simplement en 8 thématiques de donner un peu toutes les recettes que ont trouvées des tas de gens pour que la montagne se vive de façon
harmonieuse.
Harmonieuse. Sustainable, comme disent les Anglais. Voilà. Donc Demain la montagne, un livre positif, allez-y, c'est plein d'initiatives. On en trouve partout, en Belledonne et autres. Des gens qui fabriquent des glaces avec des vaches. Bon, rien d'extraordinaire.
Non, puisque là,
mais vous verrez, c'est vraiment
c'est
bien.
Aux éditions Glénat.
Aux éditions Glénat.
On revient à notre sujet du jour. Sujet de l'Annapurna, 1950, Herzog Lachenal. Dans les années 80, certains ont remis en cause la version officielle d'Herzog. Voilà. Et pour Christian Greling, que l'on avait juste avant, eh bien, ces gens-là sont des gens de la cancel culture qui veulent déboulonner, en fait, le mythe.
Voilà.
Il prend fait et cause pour, en tout cas, Maurice Herzog. Et puis, de l'autre côté, pour contrer Christian Greling, parce que c'est, faut suivre, nous avons Yves Balu, le grenoblois, l'alpiniste, l'auteur, le photographe, qui va nous donner aussi sa version des faits, Jean-Michel Asselin.
Exactement. Alors Yves, vous êtes parmi nous. Quels sont en gros ce qu'on peut reprocher à Christian Greling? Est-ce qu'il son livre révolutionne finalement quelque chose, ou est-ce que c'est un tissu de mensonges?
Ah bon, je vais pas être trop polémique. Je pense qu'il l'est pour deux. Ça suffit comme ça. Et je regrette d'abord une chose, c'est qu'il n'ait pas eu l'idée, quand il écrivait son bouquin, de me contacter et de me demander ou des explications ou des documents.
Oui.
Ça leur évitait d'écrire des choses pas très agréables à mon endroit, quand il dit, par exemple, que les témoignages de Rébuffat sont souvent réécrits de manière acrobatique par Balu, pour en détourner le sens.
Aïe.
Et moi, historien, c'est très grave comme accusation pour moi. Et s'il avait ce soupçon, il peut avoir ce soupçon, il m'aurait parlé, je lui aurais montré tous les documents. Et j'aurais raconté cette anecdote. Quand Rébuffat m'a raconté que Lachenal était venu le voir en lui disant « j'en ai marre de tout ce qu'on raconte et des sottises qu'on raconte sur la Napurna, je voudrais donner ma version des faits, est-ce que tu crois que le Monde l'apprendrait ?» À l'époque, Ray Buffett était chroniqueur au Monde, il connaissait bien Beuve Méry, le rédacteur en chef, il a dit « je vais y en parler ». Et 15 jours plus tard, toujours, je cite toujours Ray Buffett, il a vu Lachenal, il a dit « c'est bon, tu peux y aller ». Et Lachenal lui a dit « non, finalement, c'est pas possible parce que j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit « Lachenal, vous êtes professeur à l'École nationale de ski d'alpinisme ». Ben oui, dans l'état où je suis, je ne peux pas faire grand chose d'autre maintenant. Et ben, il vaudrait mieux que vous vous absteniez d'écrire quoi que ce soit sur la Napurna. Ça vaudrait mieux pour vous. Et quand Ray Buffett m'a raconté ça, ça me paraissait tellement grave que j'ai dit Gaston, il faut me l'écrire. Et donc j'ai, de la main de Gaston Ray Buffett, cette anecdote écrite. Donc là encore, je la cite et je peux la montrer. Voilà. Alors ensuite. Je passe sur les attaques. Je ne vois pas très bien non plus en quoi les attaques ad hominem dont je suis l'objet nourrissent le débat ou voire même aident à améliorer l'image de Maurice Herzog. Je vois pas très bien toutes les choses qui sont.
Alors, vous n'êtes pas le seul à être attaqué, hein. Charlie Buffet, Christophe Rella, David Roberts,
tous les gens de la cancel culture, comme on dit, voire même soupçonnés de wokisme. Donc oui. J'ai été chercher ce que c'est le wokisme. Je ne me reconnais pas.
Ça vient des États-Unis.
Oui, je me reconnais pas bien là-dedans. Mais bon, voilà. Alors, cela dit, j'ai entendu quelques arguments de Christian Greening, quand il parle du contrat, effectivement, il a raison, David Roberts s'est trompé, mais là encore, il note que David Roberts s'est trompé et il ajoute que Yves Balluy, visiblement trop heureux de voir une calomnie supplémentaire frapper l'expédition, s'est abstenu de réagir. Trop heureux. En quoi je peux être heureux de ce genre de choses. Et pourquoi j'aurais réagi? Je ne m'amuse pas à réagir. D'autres le font. Le font avec beaucoup de zèle. Voilà, donc effectivement. Ensuite, Lachenal occulté. Là, effectivement, Lachenal, je continue de dire que Lachenal a été occulté. Et que, quand, dans la rue, quand on demande est-ce que vous avez pas entendu la Napurna, Maurice Herzog, les gens, encore, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Lachenal, personne ne le connaît, personne. Et je vous donne un exemple intéressant. Il n'y a pas très longtemps, je lisais un San Antonio. Et je vais vous faire une citation de San Antonio. C'est dans les vacances de Berruyer. Ouvrez les guillemets. Si Herzog se contentait de peu, la butte Montmartre lui aurait suffi. Il ne serait pas allé se faire engourdir et salsifier au sommet de la Napurna. Eh bien, vous prenez la même phrase, vous mettez Lachenal à la place de Herzog, je n'ai pas l'impression que beaucoup de gens l'auraient comprise.
Oui, c'est vrai. On va continuer avec vous une dernière fois, Yves Balluy, dans un instant. Hein, je rappelle, auteur, photographe, alpiniste, sur ce bouquin qui fait polémique. Et on va en parler, ça se passera juste après 3 cafés gourmands.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous.
Chez vous.
France Bleu, partout en France. 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici.
Quand le printemps, c'est quand? C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps.
Dis, c'est quand?
L'égalité, quand? C'est quand l'union de celles et ceux divisés par si différent.
Dis, c'est quand? Mais qui nous comprend? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur en vaut la danse.
Y'a que des gagnants dans ce
camp. La conscience, quand? Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences?
Oui, mais quand? Reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science? Ou bien mise sur la chance, ne plus jamais
demander quand.
Mais nous c'est maintenant, mais nous c'est maintenant, nous c'est maintenant, t'es maintenant, maintenant, tout le temps c'est urgent. Et nous c'est maintenant, on n'a plus le temps pour forcer nos pensées, nos passés, oui, mais prêt à tout recommencer. Non.
La paix, c'est pour quand?
C'est dans nos livres et nos chansons.
Mais c'est jamais là pour de bon.
Dis, c'est quand? Mais qui nous entend? L'accord, l'harmonie, la raison.
N'est-ce qu'un rêve, une illusion?
La fin du sang des gens.
Mais quand? La sagesse, quand? L'âge de raison, l'âge de courage.
mais qui sommes-nous vraiment, disait.
Quand le discernement, la prudence avant le jugement, un jour enfin plus tolérant, oui mais.
Quand la justice, quand, combien de discours en avant, demi-tour.
Quand moi j'ai plus le temps.
Trois cafés gourmands et Caen sur France Bleu dans Passion Montagne. Yves Balu est avec nous, auteur, photographe, alpiniste, écrivain. On va replanter le décor en 10 secondes, alors on en parle depuis le début. 1950, l'Annapurna. Grand succès mondial. Herzog, Lachenal au sommet. Et puis c'est vrai que dans les années après, eh bien, on sent que c'est Herzog qui a tiré les marrons du feu, soyons clairs et nets. Lachenal, on n'en parle pas beaucoup. Et dans les années 80, certains, traités de cancel culture par Christian Grayling, qu'on a reçu il y a quelques minutes de cela, eh bien, on dit oui, Herzog, finalement, peut-être que si, que ça. Lachenal a droit de citer. Et Christian Grayling a montré l'écrou. C'est un historien, il a dit pas du tout, c'est Herzog, c'est le patron, c'est comme ça.
Yves Balu, je reviens vers vous. Où en est-on de cette histoire-là ?
Alors, pour répondre, je reviens une seconde sur ce qu'a dit tout à l'heure Christian Grayling à propos du manuscrit qu'avait Ardé. Alors simplement, effectivement, Lachenal a été voir un de ses amis, il s'appelait Philippe Cornuaux, qui était à la fois alpiniste et journaliste, pour lui dire, peux-tu m'aider, je veux écrire mes mémoires. Donc il a écrit cela. Et il est mort accidentellement en 55 dans la Vallée Blanche. Et à ce moment-là, Gérard Herzog et Maurice Herzog sont tout de suite été voir Philippe Cornuaux en lui disant tu nous donnes ce manuscrit, on va le publier pour Adèle, ça lui fera de l'argent pour Adèle,
la veuve de
Louis Lachenal. Bon, et le texte en question, moi j'ai une copie de ce texte. Et le texte était caviardé. Pas seulement par Lucien Devy, mais également par Maurice Herzog. J'ai ce texte, j'ai des corrections de Maurice Herzog, en particulier une, à propos donc de cette fameuse scène où Lachenal dit « Moi, je veux faire demi-tour parce que mes pieds vont geler, on est en situation de danger, je suis guide, je sais ce que c'est, évaluer le danger. » Et ça t'est rayé de la main d'Herzog, et avec cette annotation, je n'avais pas senti cela, peut-être ai-je été injuste.
D'accord.
Ça n'a pas été publié, tout ça. Donc, ouais. Tout ça pour dire que, pour compléter l'information de M. Grayling, que Herzog, lui aussi, est intervenu sur le manuscrit de Lachenal. Alors, pour le reste, moi j'aime bien votre mot « romance ». Je pense que c'est ça qui me gêne, c'est la romance. C'est pas du tout... j'ai jamais personnellement remis en cause le sommet. J'ai toujours été persuadé qu'il l'avait gravi, et j'ai jamais remis en cause le sommet. Bon, pour moi, ça fait pas de doute. D'autant plus que quand Herzog est rentré au camp 5, il a dit à Rebuffa et Terray, demain vous y allez. Bon, j'imagine pas que s'il avait pas été au sommet, il aurait pas laissé les autres aller voir des traces inabouties. Donc je pense que c'était une bonne raison pour imaginer, si on avait des doutes, qu'ils avaient bien été au sommet. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est pas Herzog, chef d'expédition. Et no, c'est normal qu'il ait la gloire d'un chef d'expédition qui a été une grande réussite. Non plus Herzog, alpiniste, qui a eu le courage et l'endurance pour aller lui-même au sommet. Tout ça, je trouve ça admirable. Ce que j'admire moins, c'est après. Ce qui s'est passé après, le Herzog d'après. Un ou deux exemples. Il a publié Annapurna Premier 1000, qui a été réédité un grand nombre de fois. Et dans la dernière réédition, qui date de 2000, il a fait une nouvelle préface. Et je vous lis une phrase de Maurice Herzog. Il dit, ouvrez les guillemets, « Certes, tous les 8000 de la Terre ont été conquis depuis lors. Mais sans vouloir diminuer le mérite de leurs vainqueurs, ils apparaissent néanmoins comme récurrents. » Tout simplement, avec une grande modestie. Bon, ensuite, il a réécrit des bouquins, Renaître, L'autre en Apurna, etc. Ouais. Bon, dans lequel, mais ça devient du délire quand il dit par exemple, alors quand il parle du piolet, il dit le piolet c'est l'épée du légionnaire. L'épée pour moi, ça, on n'est pas très loin de la conquête coloniale avec l'épée, hein. On est un peu loin de l'alpinisme prôné par Gaston Rébuffat. La montagne est une amie, ce n'est pas une ennemie. Et c'est toute la différence entre la vision d'Herzog et celle de Rébuffat. Herzog, la montagne est une ennemie et on a le mérite et le courage de l'avoir vaincue. Et alors le mieux de tout, c'est l'histoire, permettez-moi de vous raconter, des asticots sauteurs. Il raconte donc son opération à Paris.
Oui.
Avec, il plante des corps, le professeur, les infirmières, etc. Soyez courageux, Maurice, j'enlève les gaz. Les gaz, Z-E-S. Et alors, laissez-moi maintenant, demanda le professeur Maurice, soyez courageux, je me charge des dernières gaz. Chacun avait les yeux vissés, qui sur mes pieds, qui sur mes mains. Soudain, ce ne fut qu'un cri, d'horreur. Attention, hurlait-on à la ronde. Il y avait un brouhaha, médecin, soignants et autres opéraient une retraite précipitée. Une explosion n'eût pas provoqué plus de chaos. Plaqués contre les murs pour se protéger, les visages grimaçaient de dégoût. Ils sautent. Des asticots énormes, doués d'une vigueur peu commune, brutalement libérés, bondissaient en tous sens. Ils prenaient pour cible ces hommes et ces femmes et les condamnaient à se défendre. Signé Maurice Herzog.
Merci en tout cas Yves Balu.
Merci Yves.
Merci pour cette rencontre avec Yves Balu et Christian Grayling en début d'émission. Dans un instant, la famille en montagne hein, et les gourdes filtrantes, on va en parler. Ça se passera après KDO et chacun sa route sur France Bleu.
Passion montagne, le mag sur France Bleu.